C'est la deuxième heure de ce 1311e Sweet Home Chicago. L'invité est Pierre Lacocque, leader du groupe Mississippi Heat. Pierre Lacocque est un harmoniciste, compositeur et producteur belge, installé à Chicago depuis des décennies. Mais il est également psychologue de formation et de métier. Passionné très tôt par le blues, il découvre l'harmonica à l'adolescence et se nourrit des maîtres du genre tels que Little Walter, Big Walter Horton ou Junior Wells. En 1991, Pierre Lacocque fonde le groupe Mississippi Heat, formation devenue incontournable sur la scène blues internationale grâce à son mélange de Chicago blues, de soul et d'influence contemporaine. Leader charismatique et principal compositeur du groupe aux côtés de son frère Michel Lacocque, il développe un jeu d'harmonica expressif et puissant allié à une écriture personnelle qui renouvelle le blues traditionnel sans le trahir. Mississippi Heat publie de nombreux albums salués par la critique et collabore avec d'innombrables grandes figures du blues comme Dave Traffar, Ineta Vesor, Cheryl Youngblood, Zora Young, Carl Weathersby, Billy Flynn, Bob Stroger, Billy Boy Arnold ou Larry Bell parmi d'autres. Très présent sur les scènes américaines et européennes, Pierre Lacocque s'impose comme l'un des très rares musiciens européens à avoir gagné une reconnaissance durable à Chicago, berceau historique du blues électrique. Son parcours illustre un profond respect pour la tradition, allié à une volonté constante d'évolution musicale. À travers son groupe Mississippi Heat, qui existe toujours 35 ans après sa formation, il défend un blues vivant, sincère et engagé, fidèle à ses racines mais ouvert sur le monde. Et leur dernier album, Don't Look Back, qu'on écoute actuellement, sorti chez Delmark Records, est une pure réussite. À travers la première partie de cette interview exclusive, Pierre Lacocque dévoile son enfance et son initiation en blues. Il évoque les premiers bluesmen à lui avoir fait confiance dès la fin des années 60. Et entre psychologie et musique, il nous emmène dans son univers parsemé de passion, empreint d'humanisme, empli de bonté pour les artistes qu'il aide et avec qui il partage scène et amitié depuis plus d'un demi-siècle. Pierre Lacocque nous offre un témoignage majeur de ce qui fut et de ce qui est le blues à Chicago. La seconde partie de cette magnifique interview sera diffusée la semaine prochaine. Pierre Lacocque, bonjour.
Bonjour Marc, comment allez-vous?
Bonjour, ça va très bien, merci. Pierre Lacocque, vous êtes un harmoniciste de blues, né à Jérusalem en 1952, de parents belges, qui, par les nécessités de leur travail, vous ont fait voyager très tôt entre Israël, la Belgique, la France, les États-Unis. Alors vous avez eu une éducation assez rigoriste, vous avez été confronté très tôt à la littérature, votre père ayant largement contribué à votre ouverture vers les livres, puis la psychologie. Votre pratique de la psychologie en tant que thérapeute a également été déterminante dans votre vie, on pourra l'évoquer éventuellement. Alors j'ai appris que vos parents avaient vécu des expérience particulièrement tragique pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils ont été violemment confrontés à l'antisémitisme et par voie de conséquence, votre frère aîné Michel et votre sœur Benjamin Elisabeth ont, tout comme vous, fréquenté une école juive orthodoxe de Bruxelles. Ça semble avoir eu un grand impact sur vous. Première question, Pierre Lacocque, en quoi cette éducation a-t-elle impacté votre vie?
Tout d'abord, étant non-juif, avoir été dans une école juive orthodoxe nous a ouvert un monde mais aussi une compassion vers l'autre, ou vers ceux qui souffrent et certainement les juifs, mais pas seulement. Donc, depuis tout petit, enfin, il y a toujours eu une attitude dans la famille des deux côtés, du côté de mon père et de ma mère, très ouvert, et j'en suis reconnaissant, et très ouvert vers les autres, ceux qui souffrent, ceux qui ont besoin de nous, d'une manière ou d'une autre.
C'est quelque chose qu'on peut ressentir dans votre façon de vous exprimer, et puis également dans la musique que vous faites. En tout cas, voilà, vous étiez, Pierre Lacocque, très proche de votre papa, qui est décédé récemment. Et dans votre dernière album de Mississippi Heat, il y a une chanson qui s'appelle Shivering Blues, qui lui est dédiée. Alors vous y racontez le corps qui lâche, les frissons, la fatigue, la difficulté à respirer, le sentiment de froid qui ne passe pas. Ces sensations physiques servent de métaphore, en fait, à une lutte silencieuse contre la maladie, vécue plutôt avec dignité plutôt qu'avec plainte. C'est ce qu'on ressent en tout cas dans les paroles. Au-delà de l'aspect médical, le texte parle surtout de la fragilité humaine face au temps et à la mort, de l'impuissance des proches et de l'amour filial, exprimé sans pathos, j'insiste là-dessus. Musicalement et dans l'esprit, cette chanson ne semble pas être un blues de colère, mais plutôt un blues de compassion et de mémoire, presque une veillée. Vous y transformez une expérience personnelle douloureuse en un morceau universel, dans la tradition du blues comme musique de transmission et de témoignage. J'aurais aimé vous demander, Pierre Lacocque, qu'est-ce que votre père vous a laissé intellectuellement et artistiquement parlant?
Donc, comment dire en anglais, he was my mentor. Il nous a guidés, c'était notre guide, donc spirituel et philosophique et existentiel. Notre père et son père à lui, qui était pasteur, comme mon père d'ailleurs, et éventuellement mon père est devenu devenu professeur et de l'Ancien Testament, théologien, etc. Donc il a toujours été un guide pour nous trois, donc mon frère Michel, ma sœur Elisabeth. Donc il avait réfléchi et comme philosophe, comme théologien, il a été influencé par les rabbins, les pasteurs, évidemment l'Holocauste, Elie Wiesel, des gens comme ça, Viktor Frankl, des gens qui ont souffert énormément mais qui ont appris et qui ont pu réfléchir au sens de la vie. Est-ce que la vie devrait être? Est-ce que la vie ne devrait pas être? Donc il y a un oui et il y a un non dans la vie. Mon père a été m'a beaucoup énormément influencé jusqu'à ce jour. Ma maman aussi, qui était plus sur terre, si je peux utiliser le mot, et qui avait un amour pour les autres et pour sa famille qui était vraiment très touchant. Donc j'ai en anglais, I was exposed to all of that.
Oui, donc une souffrance peut être mise en forme de résilience et au service de l'universalité finalement, si on veut résumer un peu, oui. Avec des très grossiers.
Exactement Marc, ouais. Exactement Marc. D'ailleurs, je trouve que votre description de la chanson Shivering Blues est parfaite.
Merci.
C'est mal dit en mots, mieux que je pourrais le faire.
On essaie d'écouter la musique, mais aussi surtout les paroles parfois, et là, on est d'accord que c'est une chanson très très porteuse. Thank you. Pierre Lacocque, voici comment vous vous décrivez, j'ouvre les guillemets. Regardez-moi, je suis blanc, je suis belge, je suis européen, j'ai un accent français, je viens d'un milieu judéo-chrétien conservateur et rigide. Mon père et mon grand-père paternel étaient pasteurs protestants. À première vue et même à deuxième vue, je n'appartiens pas au monde du blues et pourtant j'y suis complètement. Le blues me comprend. Fin de citation. Alors Pierre Lacocque, pourquoi et comment le blues peut-il ainsi comprendre les différences et assimiler les personnes sans ségrégation, sans a priori et puis surtout avec autant de générosité et d'amour ?
Surprenant, c'est quelque chose qui est difficile à expliquer parce que ça vient de l'extérieur. L'accueil que je reçois, l'accueil que j'ai reçu parmi le monde du blues, des African Americans, des Noirs, j'ai pas commencé en disant politiquement en français.
Les Afro-Américains, oui, c'est ça, oui.
D'accord, Afro-Américains. Depuis le début, a toujours été à bras ouverts et c'est une chance, c'est une musique existentielle qui va au-delà. C'est comme la Bible, en fait. Ça va au-delà du contexte d'Israël, disons, et il y a une ouverture vers le monde et on peut s'identifier au message biblique, par exemple. Et dans le blues, c'est la même chose. C'est une musique existentielle qui a des racines, c'est vrai, qui a une histoire absolument qu'on ne peut pas dénier et qu'il faut comprendre, qu'il faut apprécier, je dirais même aimer. Leur souffrance afro-américain est obvie jusqu'à ce jour.
Oui.
Mais l'accueil a toujours été là et ça m'a beaucoup touché. Ça me touche toujours parce qu'en fait, pourquoi accueillir une personne comme moi? Je suis même pas américain. Je suis américain maintenant avec un passeport américain, mais je ne viens pas d'ici.
Tout à fait. D'ailleurs, très jeune, Pierre Lacocque, vous entendez jouer Walter Horton à l'université et vous dites que c'est une révélation presque religieuse. Hein, c'est un peu ce que vous disiez à l'instant. Qu'est-ce que vous aviez ressenti vraiment au fond de vous à ce moment-là? Je crois qu'on est à la fin des années 60, si je ne m'abuse.
Oui, c'est tout à fait. Vous avez raison, Marc. 69, nous avons immigré en 1969 à Chicago. Mon père ayant reçu un poste plein temps d'enseignant d'Ancien Testament. Et donc, nous sommes venus en famille en 69. Alors, l'harmonica a toujours été mon instrument depuis mon enfance. Je ne savais pas quoi jouer dessus. Je n'étais pas aussi attiré avec la musique, disons, européenne. Et je n'avais jamais entendu l'harmonica jouer du blues. Mais mon père encore une fois, m'avait acheté à 3 ans. On habitait en Alsace à l'époque. Mon père était pasteur dans un petit village en Alsace, près de Strasbourg. Pour une raison ou pour une autre, je reçois un cadeau. Et j'avais 2 ans et demi, peut-être même 3 ans. Il m'a donné un cadeau comme ça. Et c'était un harmonica 4 trous. Le vrai harmonica, si je peux utiliser le mot vrai, à 10 trous. Mais lui, il en avait en plastique. Il avait 4. Il était vert, couleur verte. Et quand j'ai joué, déjà à l'époque, je pleurais. Donc mon corps a répondu au son de l'harmonica.
Ah oui.
Mon âme, si vous voulez. Et alors, je savais déjà depuis très très jeune que l'harmonica m'attirait. Mais je ne savais pas quoi apprendre d'inspirant. C'était à Chicago en 69 que j'ai entendu Big Walter Horton, que je ne connaissais pas du tout. Thank you. J'avais jamais entendu parler de lui, je ne savais pas qui il était, mais ça m'a bouleversé. Je traduis de l'anglais, mais j'étais vraiment ému et ça a changé la direction de ma vie. Parce que dans mon contexte de famille, c'était intellectuel, existentiel, Albert Camus, Jean-Paul Sartre, surtout les existentialistes,
oui.
Si je peux utiliser positif, donc juif, je dis aux chrétiens qui pensaient que la vie a un sens. En dépit du non-sens, en dépit de l'absurde, il y a un sens dans la vie. Il faut contribuer. Enfin, bref, c'est l'aspect positif de l'existentialisme qui nous intéressait en famille. Enfin bref, ça a changé ma direction de ma vie et le son de l'harmonica qu'il avait, j'aurais jamais pu m'imaginer que l'harmonica avait des sons comme ça. Et il jouait avec un ampli, ce qui n'est pas toujours le cas avec lui, avec Big Walter.
Mm-hmm.
Il aimait bien la facilité, disons, si je peux utiliser le mot. Il venait très souvent jouer avec le PA system, donc un micro sur scène, comme ça, sans amplificateur. Mais ce jour-là, pour nous, il en avait un. Et le son était une sorte de son de trombone, de saxophone. Le son était profond, chaud. Et je me suis directement dit, voilà ma vie devant moi. Voilà mon futur.
Donc Pierre Lacocque, deux rencontres avec l'harmonica, une tout jeune à peine 3 ans, et puis l'autre par la suite en 1969. Vous étiez un teenager encore à ce moment-là.
Oui, j'avais 16 ans et demi.
Ouais. Et donc Big Walter Horton, qui nous a survécu jusqu'en 1981, qui a continué sa carrière bien sûr, qui avait, je crois, fait un bel album chez Alligator Records vers 72 avec un certain Carrie Bell, si je ne m'abuse.
Oui. Et toujours très très bien vu jusqu'à ce jour. Oui,
c'est vrai.
Un très bel album.
Très bel album. Et là, on arrive donc dans les années 70, alors plusieurs contacts avec le blues, avec des bluesmen sur Chicago, bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous parler, Pierre Lacocque, de votre contact avec les musiciens lors de cette époque-là, et puis savoir peut-être quel nom remonterait à la surface quand on évoque cette période, peut-être Junior Wells, mais certainement d'autres.
Oui. Mais vous avez raison. Donc, Junior Wells était central depuis 69, peut-être même, je dirais 70, disons, parce que j'ai commencé à jouer en 69, et je n'avais pas... Donc, en 70, je crois que c'est mon frère Michel, qui a toujours été beaucoup plus téméraire que moi, et c'est lui qui m'a beaucoup, toujours, et ma sœur aussi avec le temps, poussé, vas-y, allons à Teresa's, où Junior Wells avait ses concerts le lundi soir, et c'est Michel qui m'a dit, allez, on y va, on prend un taxi, on habitait pas loin, on était à Hyde Park, et là où Teresa's, le club se trouvait, c'était environ 10 minutes de nous, quoi.
Ah oui.
Très proche, très très proche, oui.
Lord, I wonder what they got the matter. I'm trying over time. It seems like hours. Everything done changed, but I hold up my hand. Lord, I'm trying to make you understand. Lord, you know what? Everybody they tell me. Somebody done hoodoo the hoodoo man.
On prenait un taxi et on y allait. Et je jouais vraiment mal parce que j'étais un débutant, mais ça, je le savais pas. J'avais l'humilité, mais j'étais tellement excité, tellement inspiré, tellement heureux de jouer l'harmonica que c'était ça qui dominait mes sentiments. Mais Junior, dont Michel, encore une fois, a parlé, il est venu parler à Junior, on me demanda à Junior Wells, est-ce que ça vous ennuierait si mon frère vient jouer avec lui? Non, pas du tout. Donc, je viens sur scène, et donc, je joue avec lui sur scène. C'est notre première rencontre, et je vois dans ses yeux quelque chose chose qui me touche. Et dès ce moment-là, on a eu une
complicité peut-être.
Oui, c'est ça, une complicité. Et il m'a donné son chromatique qui avait 16 trous. Il me l'a donné comme cadeau. Il m'a donné un autre harmonica à 10 trous qui est I, donc si en français, la clé si. Il jouait souvent dans cette clé-là, pour une raison ou pour une autre, la clé si ou do. Il aime bien le do aussi. Enfin, bref, il m'a donné ça. Donc depuis ce moment-là, il y a eu des atomes crochus entre nous. Et depuis toujours, depuis ce moment-là, chaque fois qu'on se voyait, je ne dis pas que il avait des milliers de fans, mais lui et moi, on a toujours eu des atomes crochus, au point où il avait accepté d'enregistrer une ou deux chansons avec nous, avec Mississippi Heat au début, dans les 90, les années 90, et c'est son manager qui lui a dit non, ils ne sont pas connus, ne fais rien avec eux.
Ah oui.
Oui, à l'époque, oui, c'était comme ça. Mais question amour et question respect, accueil, surtout accueil. Et il aimait bien mon style d'harmonica, qui n'était pas nécessairement influencé par Junior Wells, même si j'aime beaucoup les mélodies et j'aime beaucoup les... Je traduis l'anglais maintenant parce que je suis ici depuis tellement d'années. Les phrasing, les mélodies, comment j'exprime mes mélodies, disons, et tout ça. Il aimait bien, il me donnait beaucoup de compliments avec ça. Et ça a toujours été. Donc lui, il était central pour moi. J'ai rencontré beaucoup d'autres African Americans, afro-américains, avec les années. Carl Weathersby, plus tard, même chose. Gino Wells avait un chef de groupe de son groupe qui s'appelle George Bays, ou Bazemore, on l'appelait Bays.
George Bays qui a participé à des enregistrements de Mississippi par la suite.
Exactement, Marc, mais vous êtes bien renseigné, là, c'est merveilleux. Et c'est George qui m'a dit, qui m'a aussi fait des commentaires en privé, en disant, tu sais ce que Junior disait de toi, etc. Enfin, j'ose pas trop répéter, mais voilà, c'était merveilleux, donc l'accueil. Teresa, j'ai rencontré beaucoup de gens, comme par exemple un que je n'ai plus, que il va pas se rappeler, je suppose, c'était Muddy Waters Jr., un des fils de Muddy Waters, qui venait souvent chanter là. Carrie Bell était là souvent les lundis. Il y avait James Cotton venait très souvent. Louis Myers. Dave Myers, je ne me rappelle pas nécessairement, mais Louis Myers.
Louis Myers, le guitariste des Aces, avec Fred Billow, j'imagine.
Oui, exactement, c'était lui. Donc il jouait surtout l'harmonica, Juke, des choses comme ça, des chansons comme ça. Et il y avait aussi un Nate Applewhite, où j'ai perdu contact, je ne sais pas ce qu'il est devenu, mais il jouait la batterie, Nate Applewhite. Et il y avait aussi le guitariste de Muddy Waters.
Nate Applewhite, il me semble avoir vu son nom derrière un certain Magic Slim à une époque, peut-être à la deuxième partie des années 70.
Voilà, mais vérifier. Écoute, je crois que c'est lui. C'est en effet peut-être ce qui s'est passé, mais j'étais jeune à l'époque, donc je n'ai pas trop suivi leur direction, disons. Mais oui, il y avait aussi Sammy Lohorn, qui était le guitariste de Muddy Waters, et qui a eu un accident. Je ne sais pas ce qu'il y a eu, mais une sorte de bataille, de bagarre, je ne sais pas quoi, et où il a été jeté de deuxième étage, ou de premier, en français on dirait premier étage, premier, second floor en anglais, de la fenêtre. Apparemment, il s'est cassé la jambe. Je ne sais pas ce qu'il y a eu. Je ne sais pas si c'est des gangsters ou quoi.
Ou un mari jaloux, peut-être.
C'est ça, dans le monde de la musique.
Ça existe.
Il y en a, oui.
Je vous ai entendu citer tout à l'heure Carl Weathersby. Est-ce que Billy Branch faisait également partie de la scène à cette époque-là?
Non, je ne me rappelle pas. On a le même âge. Il est un peu plus. On est né le même mois, mais il est un an plus âgé que moi.
Ouais.
Il est 51, moi je suis 52. Mais non, je ne me rappelle pas du tout lui. Et mon expérience de Turis, ça c'était surtout au début de Plastic, où j'avais 17 ans, des choses comme ça, parce que mes parents habitaient à Chicago. J'ai été à Montréal pendant 6 ans pour faire des études. J'ai joué à Montréal, etc., musicalement aussi. Mais donc j'ai un peu perdu momentum, disons, après avoir quitté Chicago pour 6 ans et revenu en 76.
On reparle de cette deuxième partie des années 70, mais j'avais une question d'ordre plus général, Pierre Lacocque, par rapport aux difficultés qu'on peut imaginer, qui peuvent exister, mais que visiblement vous n'avez pas trop connues, pour intégrer la scène locale avec des collaborations entre personnes blanches et personnes noires. Est-ce que c'était déjà courant cette époque-là, dans les années 70, ou est-ce que ça venait de commencer?
Donc l'intégration de blancs et noirs commençait déjà. Il y avait déjà Paul Butterfield. Get out of my life, woman. You don't love me no more. Get out of my life, woman. You don't love me no more. Paul Butterfield, qui avait lancé Elvin Bishop, Charlie Musselwhite,
qu'on
est devenu, disons, copains, je ne dis pas amis, mais on se connaît très bien. Donc il y avait un momentum positif et une intégration de noir et blanc. Et évidemment, Muddy Waters avait aussi intégré.
Par exemple, Jerry Portnoy.
Jerry Portnoy avant Paul, l'harmoniciste blanc avant. Paul Asher.
Paul Asher, d'accord. Oui.
Donc il y avait l'intégration déjà avec Muddy Waters, surtout de Paul Asher, qui est resté avec lui pendant plusieurs années. Comme vous dites, Jerry Portnoy. Donc, il y avait déjà un momentum. Il y avait aussi des groupes blues de blancs qui étaient bien reçus. Seagull and Schwall, ici à Chicago. Corky Seagull.
Oui, c'est vrai, le Seagull-Schwall Band, on s'en souvient de ça, avec Corky Seagull qui a fait par la suite un Chamber Blues, un projet absolument délirant et vraiment très, très réussi d'intégration du blues et de la musique de chambre. Ça, c'était quelque chose.
Oui, c'est ça, Marc. Oui. Absolument. Tout à fait d'accord. Donc, il y avait une réception. J'avais déjà, très jeune, des offres de joindre certains groupes comme John Little John, qui n'a pas eu un nom nécessairement international, mais il était très influencé. Il chantait très bien aussi de Elmore James. C'était un disciple de Elmore James, John Little John.
Ouais, tout à fait.
Et il m'avait offert. Oui, j'ai rencontré des Johnny Young, des gens comme ça qui étaient très réceptifs. Et c'est ça qui m'a toujours touché et qui m'émeut.
Johnny Young, qui était un des rares bluesmen, avec peut-être deux ou trois autres, en tout cas, à s'exprimer à la mandoline. C'est quelque chose d'assez peu banal, on va dire. I got to check with the laundry man. See, is this my laundry on clothes? I got to check with the laundry man. This is my laundry on the coat. I got to put on what things are right. Baby, please don't you go.
c'est vraiment, et son disque, la Chicago Blues, je crois, avec Big Walter, encore une fois, Big Walter Horton et James Cotton. Donc, il y a sur une face, il y avait Big Walter, et sur l'autre, il y avait James Cotton, un hot dog. Il y avait une chanson qui s'appelle Hot Dog, des choses comme ça.
Hot dog, I'll let you take all of my life. A hot dog, I'm gonna let you take all of my life. A hot dog, don't say the same thing twice.
Non, très non. Et non, encore une fois, la communauté afro-américaine en général, très accueillante, en dépit du racisme et en dépit du fait que jusqu'aujourd'hui, il y a du racisme dans la société. Mais ne parlons pas de politique parce que ça prendrait trop de temps. Mais donc, l'atmosphère encore aujourd'hui n'est pas nécessairement accueillante vis-à-vis des gens de couleur et surtout pas des afro-américains. Donc, il y a une souffrance, il y a non seulement souffrance, mais il y a une colère. Il y a, it's, en anglais, on dirait, it's injustice. Il y a une injustice. Il y a une injustice qui est palpable. Et pourtant, l'accueil est là. C'est ça qui me touche.
Ouais. Ça, c'est quelque chose qui m'étonne juste à moitié parce que la générosité, ça fait aussi partie de l'ADN de ces gens-là, des bluesmen, des gens qui n'ont pas grand-chose à partager, mais qui vous offrent tout, finalement. C'est ça, l'idée.
Exact. Bon. Exactement. Ce sont des modèles existentiels et ils ont leur souffrance aussi. Ils ont fait, il y en a qui font des choix. Et les choix, c'est je vais être comme Martin Luther King. Je vais être en dépit de ma colère, de l'injustice. Je vais. Mais il y a aussi, comme vous dites, Marc, il y a culturellement, parce que ce sont des gens qui viennent du Sud, entre guillemets, hein, de l'Afrique, et même le Sud des États-Unis, les gens sont encore plus chaleureux.
Oui. Ah oui, j'ai pu l'expérimenter aussi, mais c'est vrai qu'à Chicago aussi, de toute façon, voilà, une fois qu'on m'a montré qu'on connaissait un petit peu leur univers, ben on est forcément pas forcément reçu à bras ouverts partout, mais en tout cas le sourire arrive et les paroles viennent naturellement. Pierre Lacocque, vous parlez de modèle existentiel, ça m'amène une question sur votre travail de psychologue qui vous a nourri pendant, je crois, près d'un demi-siècle, hein. Pierre Lacocque, en quoi est-ce que ça vous sert encore aujourd'hui, et puis pourquoi vous l'avez finalement délaissé pour devenir musicien professionnel? C'est une question corollaire.
Oui, donc il y a deux questions. La première, donc il y a un parallèle obvious pour moi, c'est que la psychologie et la musique parlent de la même chose, de la même condition humaine. Donc étant psychologue, évidemment il y a en plus des émotions, feelings comme on dit en anglais, il y a les mots pour expliquer, pour comprendre les racines de certains sentiments chroniques, etc. Donc la psychologie m'a beaucoup aidé personnellement à mettre des mots à mes sentiments et à comprendre mon enfance, comprendre ma dépression, mes anxiétés. Je souffrais beaucoup de panique à un moment donné. Donc lire et apprendre et écouter mon père et m'a beaucoup aidé.
Tout ça, c'est un exutoire à l'angoisse finalement. Le fait de justement communiquer, d'en parler.
Oui, tout à fait. Et donc, certaines chansons que j'ai écrites ou que j'écris sont influencées par certaines expériences personnelles ou en tant que psychologue que je cache évidemment. Je cache les même le sexe de la personne qui parle. Donc si c'est une femme qui chante, ça peut être en fait une chanson basée sur un homme et vice-versa, que donc je cache le contexte. Mais par exemple, il y a une chanson que j'ai écrite il y a longtemps qui s'appelle « What kind of a man is that? » que Billy Boy Arnold a chanté pour moi, et c'était basé sur une vraie histoire où un homme abusait une femme et qu'il la cachait, quoi. Donc c'est une vraie histoire.
My neighbor keeps his wife at home and never lets her go out of sight. My neighbor keeps his wife at home, never lets her go out of his sight. What kind of man is that, I ask? That won't treat his woman right. Her feet never touch the ground because he's afraid she might run away.
He never let our feet touch the ground, because he's afraid the pretty little thing might run away. What kind of man is that, people, that will treat a woman this way? Woman can't get no thrill, knowing she's got no happy life. The woman can't get no thrill, because she's got no happy life. Tell me, what kind of man is that? They don't care nothing about his wife. He treats his woman like a dog, and tries to own her like she's a slave. He treats a woman like a dog, and wants to own her like she's a slave. What kind of man is that, I'd like to know? Won't let that pretty little thing walk out the door.
Bref, donc la psychologie. Donc moi je trouve qu'il y a un pont entre les deux, et le pont c'est la vie, c'est ce qu'on ressent. Le blues parle de tout, et c'est vrai qu'il parle de sexe, il parle de tout ça, mais il parle aussi de la vie, de la souffrance, de l'amour. Enfin bref, c'est une musique existentielle, et la psychologie pour moi, j'ai toujours été attiré par les existentialistes et humanistes, et surtout aux États-Unis, parce qu'il y avait des écoles de psychologie aux États-Unis comme Carl Rogers, des gens comme ça. La psychanalyse m'intéressait aussi énormément, mais pas aussi rigide, disons, que Freud du tout, mais j'aimais
pas,
bien
pas,
le...
Pas forcément lacanien non plus, alors.
Alors, non, lacanien non plus. Le stade du miroir m'intéressait, mais j'étais pas trop. Non, mais oui, nous avons un ami, grâce à mon père, qui s'appelle Paul Ricoeur, que vous connaissez peut-être,
qui était
philosophe français, et qui avait enseigné à Chicago, qui est devenu. Nos deux familles étaient très proches. Donc, il parlait de Lacan, Jacques Lacan et tout ça. Donc j'écoutais. Mais donc la musique, pour moi, et la psychologie, ça se marie très, très, très bien.
Ça, c'est ce que vous avez fait durant pratiquement toute votre vie. À partir du moment où vous avez eu une occupation professionnelle, c'était psychologue. Et puis également, ce métier de musicien depuis déjà de nombreuses années. Est-ce que vous avez délaissé l'un pour devenir l'autre ou est-ce que tout s'est fait de pair?
Non, c'était une sorte de progression naturelle. C'est-à-dire que j'ai une famille, j'ai une femme, mes enfants étaient jeunes et je voulais contribuer financièrement le mieux possible. Musicalement, c'était pas facile parce qu'à un moment donné, le groupe était à 6. Nous étions 6 musiciens avec Dietrich Farr, James Wheeler, Billy Flynn, Bob Stroger qui vit toujours 95 ans.
Qui vient de fêter ses 95 ans, Bob Stroger, il est incroyable.
Ouais, c'est incroyable.
Il vient de faire un album chez Delmark Records, ce que vous venez de le faire d'ailleurs.
Oui, exactement. Enfin bref, c'est merveilleux. Et puis donc financièrement, c'était pas facile parce que je mettais toujours mes musiciens avant moi, leurs besoins et tout ça, etc. Donc au début, c'était pas facile du tout pour que j'amène, l'argent pour aider la famille. Ma femme travaillait, donc ça aidait, mais je ne trouvais pas ça. Je voulais contribuer au foyer, donc je faisais les deux. Et à un moment donné, j'étais très actif musicalement aussi, donc j'avais une sorte de plein temps et j'ai décidé de faire un cabinet privé. Je travaillais dans des hôpitaux et dans des centres psychiatriques, etc. pendant longtemps. Et à un moment donné, on a décidé avec ma femme que ça serait mieux pour moi de faire un cabinet privé. Comme ça, j'ai le contrôle total de mon horaire. Donc ça a aidé. Ça, j'ai fait ça pendant très longtemps, mon cabinet privé, au moins plus de 20 ans, pour me permettre de travailler, de voyager. Et ça a très, très bien marché. À un moment donné, j'ai dû demander permission à ma femme. Est-ce que je peux arrêter? Mais j'adorais ce que je faisais. C'est pas ça, mais c'est question de temps.
Oui.
Et donc, j'ai beaucoup apprécié mon travail de psychologue, etc. J'ai beaucoup, beaucoup apprécié mes patients, mes clients. J'aimais bien ce que je faisais, mais il y avait aussi une question de temps. Et puis, la renommée du groupe était là. Et j'ai demandé à ma femme, écoute, elle a dit oui, continue. Voilà, tu peux prendre ta retraite.
Voilà, d'accord. Et ça, c'était il y a 7 ou 8 ans, je crois.
Hein. Oui, c'est correct, Marc.
Ouais. Pierre Lacocque, vous avez publié des ouvrages en tant que psychothérapeute. Est-ce que la musique y a une place?
Donc, non, pas vraiment. J'avais écrit quelque chose. J'étais vraiment lancé dans une étude de Ordinary People. Je ne sais pas si c'est... Comment on dit ça? L'auteur était Judith Guest en 76. Elle avait écrit un livre qui est devenu un film, d'ailleurs, qui s'appelle Ordinary People. Enfin, bref, c'est une histoire qui est un novel. C'est une histoire qui n'est pas basée sur la vérité, mais où il y avait un des frères qui meurt, qui se noie, et l'autre frère qui survit et qui a des angoisses parce qu'il était là et il n'a pas pu sauver son frère. Enfin bref, et cette personne, Timothy, donc jouait de la guitare. Donc j'avais, en plus de l'étude du caractère, j'avais fait des recherches psychanalytiques même sur ce que la musique représente pour la personne, pour l'âme, etc. Mais j'ai jamais publié ça. Et puis je me suis lancé plus vers la musique après ça.
Alors le titre en français, c'est Gens ordinaires, hein, de Judith Guest, et ça remonte à 1976. Ça fait pile 50 ans que cet ouvrage est sorti.
Oui. Et puis il y a eu un film avec Mary Tyler Moore. Enfin, bref, le film a été très très bien reçu. Et enfin après, j'étais très lancé là-dedans. J'aimais beaucoup j'avais fait beaucoup de recherches sur le sens ou le meaning en anglais. On dit of music, you know, interprété psychologiquement.
Un film que j'avais peut-être vu à l'époque, il me semble, c'est Robert Redford. C'était lui le réalisateur.
Oui, ça m'étonnerait pas que ce soit lui. Oui.
In this typical town, in this comfortable home, three ordinary people are about to live an extraordinary story.
But starting all over again, the lying, the covering up, the disappearing for hours, I will not stand for it. I can't stand it. I really can't.
What kind of psychiatrist are you? They all believe in dreams.
I do believe in dreams. Only sometimes I want to know what's happening when you're awake. No!
I don't want to see any doctors or counselors. This is my family. And if we had problems, and we will solve those problems in the privacy of our own home.
I knew something was wrong even before he tried to kill himself.
Donc effectivement, en tant que psychothérapeute, est-ce qu'on peut parler de la musique? Je pense que ça doit pouvoir être possible, mais peut-être faire un ouvrage spécifiquement sur les rapports qu'entretiennent ces deux domaines que vous avez bien décrits tout à l'heure, Pierre Lacocque. Est-ce que le blues est une thérapie? J'ai trois propositions à vous faire. Est-ce que vous seriez d'accord avec l'une des trois ou aucune ou les trois? Alors je vais citer Buddy Guy tout d'abord qui disait « Le blues est comme un espace où la folie reste contrôlée par ce que exprimé ». C'est ce qu'il dit à propos d'un album qui s'appelait « Stone Crazy ». D'ailleurs, Otis Rush aurait pu le dire aussi dans son album « Screaming and Crying » notamment. La deuxième proposition est signée Johnny Hooker. Il disait « Le blues ne guérit pas parce qu'il efface la douleur, mais parce qu'il l'accompagne jusqu'à ce qu'elle devienne supportable ». Et le même Johnny Hooker avait dit également « Le blues n'est pas un style, c'est une pratique de survie, j'ai survécu grâce au blues ». Alors, on ne peut pas douter de la sincérité de ces deux personnes-là, mais est-ce que vous êtes d'accord avec ces trois propositions ou plus avec l'une des trois, Pierre Lacocque?
Oui, tout à fait, tout à fait. Je me sens très compris. Je dis toujours, c'est entre le néant et meaning, you know, between nothingness and meaning, you know. Le blues me donne un contexte, me donne un monde, me donne une habilité, je traduis l'anglais encore une fois, une facilité, me donne un contexte qui m'aide à surmonter le néant, disons.
Et peut-être aussi à acquérir une forme de légitimité, je ne sais pas.
Oui, mais il y a beaucoup d'aspects positifs, pas toujours dans ma vie avec la musique, je dois dire.
Ah oui.
Parce que des fois, oui, j'ai des périodes où j'ai dû arrêter, une période quand j'étais, il y a longtemps maintenant, mais où j'ai dû arrêter parce que la musique ne me nourrissait plus, dans le sens positif du terme.
Oui.
Et j'avais besoin de mettre des mots, c'est pour ça que la psychologie est venue, des mots pour m'expliquer mon enfance, parce que mon enfance n'a pas été merveilleuse, disons, et donc j'ai dû prendre le temps de m'expliquer mes angoisses et mes dépressions déjà d'enfance, sérieuses depuis l'enfance, et j'ai dû arrêter. Mais je suis tout à fait d'accord avec ces citations ici. C'est depuis des décennies, je ressens ce que Buddy Guy dit, John Lee Hooker, et Otis Rush, évidemment, qui avait une profondeur énorme dans sa musique aussi.
Tout à fait.
Non, c'est vrai, ça donne un contexte, ça donne un monde, ça donne une réalité qui surmonte le chaos.
Me a one-way ticket, leaving.
Pierre Lacocque, on va parler de Mississippi Heat, qui est le groupe que vous avez fondé en 1991. Alors, au tout début, la toute première mouture, c'était Robert Covington à la batterie au chant. On parlait de Bob Stroger tout à l'heure, il était là. Et puis, c'était pas encore Billy Flynn, mais plutôt John McDonald. Hein. Billy Flynn est arrivé plus tard, mais il est toujours là. Il y avait vous, bien sûr, à l'harmonica et comme bandleader, Pierre Lacocque. Mississippi Heat a été fondé lors d'une jam. Est-ce que vous pouvez nous faire revivre ce moment-là?
Donc, j'étais revenu de Montréal, 76, et j'étais plus psychologue que musicien à l'époque, parce que j'avais arrêté. Pendant environ 10 ans, j'avais arrêté parce que la musique ne me nourrissait plus, comme je disais. Mais à un moment donné, vers la fin des 70, même dans les 80, j'ai commencé à chercher des jam sessions. Mm-hmm. Et j'en avais trouvé un les dimanches à un endroit qui s'appelle No Exit. Donc, No Exit. Mm-hmm. Sartre aimerait bien ce titre-là. Il n'y a pas d'issue. Mais bref, il s'appelait No Exit. Et c'est là que j'ai rencontré John McDonald et d'autres. John McDonald est un Afro-Américain qui m'a accueilli dès le début aussi, et on est devenu amis donc très rapidement, et d'autres. Et donc, il m'avait invité, John m'avait invité, viens, j'ai un concert à Café Lura, et viens jouer avec nous. Alors, bon, il m'a invité. Et donc, c'était Robert Covington, Bob Stroger et lui, et moi. Mm-hmm. Et mon frère Michel est venu, il était là, et ça a très très bien marché, c'était vraiment, on était heureux, etc. Et moi, j'étais très heureux aussi. Et Michel, encore une fois, dit, écoute, si vous voulez, on fond en groupe, Pierre et moi, on va diriger ça. Et êtes-vous intéressé? Alors, directement, ils ont dit oui. Donc, Robert Covington, qui n'est plus avec nous maintenant, est décédé. Il avait des problèmes médicaux, etc. Éventuellement, il est décédé, mais on est tous excités de faire quelque chose ensemble. Et c'est comme ça que Mississippi Heat, ça a pris du temps. Ça a pris du temps pour trouver le nom du groupe.
Ah oui?
Oui, ça a pris du temps. Parce qu'on avait toutes sortes de... Et c'est mon fils, Jonathan, qui a dit, pourquoi pas Heat? Mississippi Heat.
Heat, la chaleur.
Oui, la chaleur. Alors, directement, on était excités, etc. On a proposé ça aux autres, ils ont dit oui, allons-y. Et c'est comme ça que le groupe a été fondé. Talking from my heart. Oh,
Merci encore à Pierre Lacocque. On a pu écouter deux morceaux entiers simplement de l'album Don't Look Back chez Delmark Records. Shivering Blues en début d'interview et Quarter to Three en fin d'interview. Et ça a également été illustré par Walter Horton avec Walter Jump et All Star Boogie. Big Walter Horton encore avec Carrie Bell dans Tell Me Baby. Junior Wells avec Buddy Guy pour Hoodoo Man Blues. Mississippi Heat avec le chanteur George Bays pour le titre Dog in My Backyard. Paul Butterfield Blues Band, on a pu entendre Get Out of My Life Woman. Muddy Waters avec Screaming and Crying avec Paul Osher à l'harmonica. Johnny Young et Otis Pan pour Morning and Groaning. Johnny Young avec son Chicago Blues Band avec Otis Pan au piano et James Cotton à l'harmonica pour Hot Dog. Mississippi Heat avec le chanteur harmoniciste Billy Boy Arnold pour What Kind of Man Is That. Ça, on l'écoutait en entier, cet extrait de Footprints on the Ceiling en 2002. Et puis le réalisateur Robert Redford pour le teaser de Ordinary People dont parlait Pierre Lacocque, bien sûr. On a écouté également donc Straight from the Heart, extrait du premier album de Mississippi Heat avec Robert Covington au chant. On était en 1992. On va se retrouver la semaine prochaine pour la seconde partie de cette interview. Et en première heure, on aura un Américain de Memphis qui s'appelle D. Robert Adams qui défend le répertoire, bien sûr, de son groupe qui s'appelle D. Robert and the Half Truth. Salut, bye bye.